Shabbos Kodesh. Yidela prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans un nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine. Aujourd'hui, exceptionnellement, avec le rabbin Yaakov Barshat. Bonjour, monsieur le rabbin.
Bonjour mon cher Jean, quel plaisir d'être avec toi ce matin.
Est-ce que je vous appelle Yaakov?
Mais avec plaisir.
D'accord. On va aussi présenter nos deux autres invités. On est avec monsieur Simon
Ohayon.
Ohayon, merci de m'aider. Vous êtes rabbin de Villaval?
Du consistoire.
Du consistoire, il faudrait faire. Et vous priez où pour que les gens lyonnais nous savent de qui?
Tout le monde appelle cette synagogue la rue Malherbe.
D'accord. C'est la grande synagogue à côté de l'école, non?
À 10 minutes à pied, on va dire, voilà. Même pas.
Et on a un grand invité, on va dire, bonjour Aaron.
Bonjour Jean, bonjour monsieur le rabbin Yaakov Archichat, bonjour monsieur le rabbin Simon Ayon.
Bonjour Aaron,
Mazel Tov. On va, si vous voulez bien, avant tout, je reviens vers le rabbin Archichat pour vous souhaiter un grand Mazel Tov.
Merci beaucoup. Ah,
vous avez une petite fille qui s'appelle Aviva Zora.
Exactement, ça fait déjà un mois et demi. Merci beaucoup.
Voilà, Mazel Tov, je vous ai pas vu depuis. Donc, Mazel Tov à la famille Barshichat et à la famille Rumi.
Exactement.
Je ne suis pas trompé. Hein.
Merci.
Ce mariage, donc je ne pouvais plus savoir ce que c'était. Et merci évidemment d'assurer cette émission. Cette semaine, nous lirons la paracha de Shelach Lecha. L'allumage des bougies, ce sera au plus tard à 21h17. Mais vous pourrez faire entrer le Shabbat à partir de 19h56 et la fin du Shabbat demain à 22h40. Comme chaque semaine, monsieur le rabbin, on va souhaiter un Mazel Tov, un Shabbat Shalom particulier aux aînés et aux personnes âgées. On souhaite évidemment un refouah Shelema à tous nos malades. Et je voudrais souhaiter un refouah Shelema particulier à la jeune fille qui a été séquestrée, et violée, etc., à Courbevoie.
Oui.
On lui souhaite un grand refouah chez demain.
Amen.
Et évidemment, Amen. On a aussi une pensée pour nos frères en Israël. On espère que de bonnes nouvelles. On va souhaiter plusieurs Mazel Tov, monsieur le rabbin.
Bien évidemment.
On commence par un Mazel Tov à Gabi Guigui, qui a reçu la semaine dernière les palmes académiques, amplement méritées d'ailleurs, pour tout le travail effectué. Un Mazel Tov également à la nouvelle équipe de la radio. Alors, la personne de Laurent Gadol, le nouveau président de la radio. Et on souhaite évidemment bonne chance pour les autres activités de Patrick Cohen. Mazel Tov, Aaron.
Merci beaucoup.
Tu nous dis qui sont tes parents, tes grands-parents?
Alors, mes parents sont Alexandra et Moshe Alouz. Mes grands-parents, Albert et Dominique Dahan. Et mon autre grand-mère, Rebecca Elbaz.
Qui sont là, je crois, pour ces Shabbat.
Exactement.
Alors, on n'oublie pas Debo et Abraham?
Oui, alors Déborah est ma petite sœur et Abraham mon petit frère.
Voilà, va être plus grand.
Oui.
Voilà, on a tout dit. On va commencer, monsieur le rabbin, comme chaque semaine, par le résumé de la paracha.
Alors, on va essayer de faire un résumé rapide. Une paracha extraordinaire qui débute immédiatement avec ces explorateurs. Ces fameux explorateurs que Moïse envoie au nombre de 12. Donc 12 espions pour explorer la terre d'Israël, que le peuple est sur le point de conquérir. Et puis ils partent pour 40 jours et ils reviennent avec cette gigantesque grappe de raisins, une grenade et une figue magnifique. Bon, tout ce symbole qui va nous montrer le symbole d'une terre riche et abondante. Mais malheureusement, ces espions, pas tous, 10 de ces espions rapportent, on va dire en quelque sorte, que le pays est habité par des géants, par des guerriers qui seraient en quelque sorte invincibles. Seules deux personnages d'ailleurs qu'on va en parler après, le personnage de Caleb et le personnage de Josué.
Joshua en hébreu.
De Yehoshua et Josué, donc Josué en français, qui maintiennent eux que cette terre, elle peut être conquise comme Dieu l'avait promis. Maintenant, lors de ce retour des explorateurs, le peuple se désespère et affirme qu'il serait préférable qu'on retourne en Égypte. Bien évidemment, ça éveille la colère d'Akadosh Baruch Hu et qui va décréter que l'entrée des enfants d'Israël dans ce pays sera retardée de 40 ans, le temps que de cette génération qui a pris pour sortir d'Égypte, que toute cette génération s'éteigne dans le désert. Ensuite, on verra qu'à la fin de la paracha, on va parler de plusieurs sujets. On va parler du sujet de la challah, ce fameux prélèvement important. On en parlera aussi. On va parler aussi de cet homme qui a transgressé le Shabbat en ramassant du bois. On va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, la paracha conclut par un texte journalier qu'on a l'habitude de lire tous les jours. Hein, le texte de la paracha des Tzitzit.
Les
paracha des Tzitzit.
On va en parler
qui
aussi
conclut
si on
cette paracha. Et donc, allons-y. C'est parti pour une belle émission.
Une question à Aaron. Toi, tu as étudié la paracha. C'était compliqué à apprendre et à lire?
Non, la vérité, c'était une paracha à peu près pas très longue ni pas très courte.
Compliqué à lire?
Un peu, parce que les mots se répétaient beaucoup et les termes changeaient. Mais sinon, la difficulté, les mots n'étaient pas très techniques, donc ça allait.
Ok. C'est important de savoir. Hein.
Bien sûr. Mmh. Et on sera heureux de l'écouter demain matin.
Oui, oui. Ah, vous êtes là?
Un peu plus tard, mais...
Un peu plus tard, d'accord.
J'aurai des retours.
Ok. En tout cas, c'est le rabbin de l'esplanade, alors...
Ah oui, je pourrais pas être là demain matin, mais...
Je peux lire aussi, hein. C'est la paracha de ma bar mitzvah, je peux lire.
Ah, d'accord. Ça fait longtemps.
Non, mais on est là pour Aaron. Hein.
Voilà.
Mais un mazal tov supplémentaire.
Mazal tov supplémentaire. On va, monsieur le rabbin, poser la question que beaucoup de mefarshim se posent. On va aussi peut-être répondre.
Oui.
Quand on lit la paracha au début, on dit il y a 12 personnes, c'est des chefs de tribu, c'est pas des gens qui sont à Maharet, ils connaissent toutes les lois ou presque. Mm-hmm. Ils ont été derrière Moshe depuis le début. Comment on peut comprendre que ces 12 personnes-là ratent leur mission?
En vérité...
Ah, c'était une mission.
Oui, mais non, c'est une mission importante. Mais comme vous l'avez dit, c'était tous des notables, des chefs de tribu, des chefs des enfants d'Israël. Mais on va dire qu'on ressentait un véritable manque d'unité dans ce groupe d'explorateurs. D'ailleurs, c'est ce qui va valoir la prière de Moshe Rabbeinu, qui va prier pour Yoshua. Les Mefarchim nous disent qu'il va prier pour Yoshua, qu'il ne se fasse pas embrigader, oui, qu'il ne se fasse pas déranger par ce groupe, et qu'il puisse réussir, qu'il puisse mener à bien cette mission, puisqu'il y avait des complots, et Moshe, il avait très peur de ces complots qui pouvaient se passer. C'est pour ça que, donc, comme la paracha nous dit au début, Moshe a prié pour Yoshua, et Yoshua ne s'appelait pas Yoshua au début.
Ah.
Il s'appelait Hoshea. Et c'est à ce moment-là que Moshe...
C'est-à-dire quoi, Hoshea?
Hoshea, c'est le sauveur. Ah. Mais à ce moment-là, Moshe Rabbeinu lui ajoute une lettre sur son nom, à son nom, au lieu de, on passe de Hoshea à Yehoshua. Mais quelle lettre va-t-il lui rajouter? Le Yud. Mm. Que signifie la lettre Yud dans la Torah? La lettre Yud, c'est la lettre qui signifie le divin. C'est la lettre qui signifie une certaine protection. Donc, il lui ajoute le Yud d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir ajouter sur lui cette protection. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que la différence qu'il y a avec les explorateurs de la Haftara. Puisque dans la Haftara, nous allons lire la Haftara, le passage qui se trouve dans Yoshua, où Yoshua, lui aussi, avant d'entrer en Eretz Israël, va envoyer, pas 12 explorateurs, mais 2 explorateurs. Et on voit que sa mission à lui réussira. Pourquoi les Mefarchim veulent l'expliquer rapidement? Puisque à l'époque de Moshe, cette mission n'a pas réussi, parce qu'il n'y avait pas de shalom, il n'y avait pas d'unité entre les explorateurs et entre tout le monde, et surtout que c'était des notables. À l'époque de Josué, il y avait une véritable unité et une véritable cohésion.
Alors,
d'où leur réussite.
Monsieur le rabbin Royon, pour vous, c'est quoi? C'est à peu près comme le rabbin Varchat, vous avez un...
Alors, effectivement, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, pourquoi
évidemment,
pas
évidemment.
Une autre approche. Non, j'ai vu quelque chose de très intéressant. Bien sûr, ce que dit Rav Varchat, c'est toujours exceptionnel. Non, jamais de la vie. Non, j'ai vu quelque chose de très intéressant, rapporté au nom de Rav Haïm Kanievski, qui a écrit un livre qui s'appelle Tarma Dikra. Dans son livre, il explique la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a dû prier précisément, enfin dire, particulièrement pour Yoshua. Et c'est rapporté au nom du Targum Yonatan que, du fait de la grande modestie de Yoshua, il fallait que Moshe Rabbeinu prie pour lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est modeste, lorsqu'on a quelque part cet attrait-là où on peut se mettre en retrait, ça peut parfois porter préjudice lorsqu'on est dans un groupe, et surtout qu'on sait que Yoshua Benoun, je pense qu'il était classé combien, Rabbi Yaakov, 5e dans le classement des plus grands. Je pense qu'il était 5e dans les explorateurs, parce que c'est classé par ordre de grandeur, on va dire, spirituel. Donc il aurait pu être annulé dans cette majorité de personnalités plus grandes que lui. Du coup, Moshe Rabbeinu a voulu prier pour lui, pour que son avis soit mentionné.
Moi, j'ai comme une question, Rab Yaakov Barshat. C'est que comment on peut comprendre que des personnes qui étaient vraiment des gens bien puissent tomber si bas ? Je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps.
Mais évidemment, mon cher Jean, puisque c'est d'ailleurs de cet épisode biblique que énormément de commentateurs vont définir qu'est-ce qu'un véritable leader, qu'est-ce qu'un véritable chef. Et un chef, il doit avoir certaines règles qu'il doit respecter. Il doit toujours montrer, on va dire, une image positive. Il doit toujours montrer un élan, une énergie positive, une dynamique. D'ailleurs, on en reparlera si on a le temps de voir la différence qu'il y avait entre Josué et Caleb. On va voir aussi cette différence de
On va y arriver avec la première question d'Aaron.
Alors justement, c'était ma question. Qu'est-ce qui distingue Caleb et Yoshua du reste du peuple ?
Ah, peut-être c'est une bonne question, non ?
Peut-être que Ravoyon va essayer de nous éclaircir.
Non, ils sont, comment dire, ils ne sont pas différents des autres. Ils sont même, encore une fois, placés et classés un petit peu en deçà des autres. Mais leur grandeur, c'est qu'eux ont décidé de ne pas donner leur avis. Ils ont, je dis bien, décidé à Aaron de ne pas donner leur avis. C'est très, très joli.
J'ai une question à vous poser. Dans la religion juive, enfin dans la tradition, Dieu a vraiment mis beaucoup de souffrance à Iov. Et quand Iov a demandé pourquoi Dieu tu me châties comme ça, il dit parce que justement, tu n'as pas donné ton avis lors de la réunion avec le Pharaon. Alors on donne l'avis, on ne donne pas l'avis ?
Non, c'est intéressant. Ici, justement, les explorateurs ont été envoyés pour faire un rapport de comment est-ce qu'on va conquérir la Terre. Il n'aura pas été demandé est-ce que nous sommes en mesure de conquérir la Terre. Non, la Terre est à nous, on l'aura. Mais maintenant, par où est-ce qu'on va passer ? À droite, à gauche, les montagnes, les plaines ? Les explorateurs ont décidé de dire ah non, ils sont beaucoup trop forts pour nous. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Ce qu'on t'a demandé, c'est par où est-ce qu'on passe ? Si on va y arriver, oui, Dieu l'a dit, Dieu nous l'a promis.
Merci beaucoup.
Une autre question à Aaron.
Oui, pourquoi Moshe, il a béni Yoshua et pas Caleb ?
Pourquoi Moshe, il a béni Yoshua
et pas Caleb, il a raison. C'est...
Oui. Bravo.
Non, bravo.
C'est là dans la continuité.
Non, pas du tout. C'est ce que je disais juste avant.
Juste pour essayer de rebondir un peu sur cette question, il faut déjà comprendre qu'il y a deux personnages complètement différents. D'accord ? Et on va comprendre pourquoi Moshe, il a prié, il a béni Yoshua et pas Caleb. Déjà, les deux, comme a dit Ravoyant, n'ont pas fauté. Ils ne se sont pas associés à Chet Ameraglim, à la faute de ces explorateurs. Mais il y a une différence entre Caleb et Yoshua.
Ouais.
Caleb, lui, n'a pas retenu sa colère. Lorsqu'il a entendu et il a vu ses explorateurs faire ce retour et cette prise de position, en quelque sorte calomnieuse, à Moshe, Caleb ne s'est pas retenu. Il est sorti un peu de ses gonds. On voit d'ailleurs dans le passage, dans le verset 30, au chapitre 13, on voit que Caleb, il a fait taire le peuple à la place de Moshe. Il a dit, mais nous allons monter assurément en Israël. Nous allons conquérir Eretz Israël, car nous le pouvons. Donc, il vient en quelque sorte, de façon un peu forte, dire ça au peuple. Par contre, Yoshua, quant à lui, Yoshua, lui, il sera plus calme, avec une plus grande retenue. C'est ce qui va valoir à Yoshua de devenir le guide d'Israël plus tard.
Alors, il y a Aaron qui a une bonne question à vous poser.
De nos jours, comment on peut actualiser ce message ?
Bonne question.
Très bonne question. Mais alors, lequel message ? Il y a plusieurs messages ici. Il y a le message des explorateurs, la faute des explorateurs. Comment nous, aujourd'hui, on peut essayer de faire attention à nous-mêmes aussi, de ne pas, comment dire, reprendre la faute des explorateurs. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les explorateurs, la faute qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont vu quelque chose ils ont pris conscience de la chose, ils l'ont interprétée et ils l'ont rapportée à Moshe. Et ben nous, c'est à peu près la même chose dans nos vies. Dans nos vies aujourd'hui, on voit des choses avec nos yeux. Notre cerveau va l'interpréter. Donc, en quelque sorte, nos yeux vont être nos explorateurs. Le cerveau va interpréter la chose. Et ensuite, nous allons vivre la chose selon notre façon de penser. C'est pourquoi les Chachamim, et surtout les Baalei Moussar, les commentateurs qui parlent de la morale et de l'éthique juive, viennent nous dire l'importance du regard que l'on pose sur chaque situation de notre vie.
Chaque individu aussi.
Comment ?
Chaque situation et chaque individu.
Exactement, sur chaque individu et sur chaque situation, sur la réalité que nous vivons. Cette réalité qui est le fruit de la providence divine, d'accord ? C'est à nous de savoir comment, quel regard nous allons porter sur cette réalité. Est-ce que je vais regarder cette réalité de façon positive, de façon négative ? Quelle va être mon interprétation ? Et cela va avoir une conséquence forte sur la façon dont je vais vivre ma vie et vivre cette situation. Si j'ai un regard positif, ça va m'être beaucoup plus facile pour moi de pouvoir vivre et grandir de cette situation.
La prochaine question pour le rabbin Simon Hayon.
Alors, pourquoi Hachem a choisi de retarder l'entrée des Bnei Israël pendant 40 ans ? Quelle est l'idée ?
Tu as raison, c'est surtout que l'on paye encore cette faute. Puisque la faute des explorateurs, la Gemara dit, Atem Bechitem, enfin je veux dire en français pour aller plus vite, vous avez pleuré gratuitement, et bien maintenant vous allez pleurer pour des bonnes raisons, et malheureusement chaque année le 9 Av...
Excusez-moi, oui. 40 ans, oui. Ça a une signification en chiffres, en gamatria.
C'est vrai que le même est quelque chose de particulier. Non, je n'ai pas en tête quelque chose, tu as quelque chose à bien accorder.
Oui, déjà, le 40 ans, c'est par rapport aux 40 jours qu'ils ont passé en Eretz Israël.
Ah oui, Yom Lashana, voilà, tout à fait, c'est vrai.
C'est par rapport, en fait, c'est un Mida qui négate Mida, c'est un mesure pour mesure.
Enfin, 40 jours, 40 ans.
Voilà, oui, ouais, mais.
Un jour pour une année.
Voilà, c'est un jour pour une année.
Effectivement. Non, mais c'était quoi la question déjà ? Oui, pourquoi 40 ans ? Effectivement, il fallait pardonner cette faute gravissime, n'est-ce pas, des 40 jours d'exploration de la terre d'Israël, qui va engendrer la haine gratuite, les pleurs, la destruction des temples, etc., etc. Et donc, il fallait renouveler la génération des Bnei Israël pour pouvoir entrer proprement et dignement en terre d'Israël, avec des gens qui aiment véritablement la terre d'Israël, qui n'ont pas critiqué, qui n'ont...
Donc vous voulez dire avoir une nouvelle génération pour qu'elle puisse rentrer en Israël.
Voilà, tout à fait.
Okay. Une autre question, Aaron.
Alors, un autre sujet qui m'intéresse. Quelle est l'importance de la challah dans notre tradition ?
Juste avant, monsieur le rabbin, en lisant la paracha hier, parce que ça m'arrive de temps en temps, je me suis dit, quel est le rapport entre la challah et le reste de la paracha ? Si tu comprends. On parle des moulins, on parle de... Et là, en plein milieu, on parle de challah.
Mais en vérité, c'est tout simple. C'est puisque dans le 15e chapitre de la paracha, où le chapitre va parler des libations que les Bnei Israël devront donc apporter dès leur entrée en Eretz Israël. Donc le chapitre 15 va débuter où l'Éternel va parler avec Moïse. Il va lui dire, voilà, tu dois dire et enseigner aux enfants d'Israël que lorsque vous arriverez en Eretz Israël, lorsque vous vous entrerez, voilà, il y aura un programme à faire. Et le programme, le premier programme que l'Éternel, on va dire, a institué dans cette paracha, c'est les offrandes. Il y a les offrandes qui sont vouées au feu, d'accord ? Les offrandes, des offrandes de festin,
alors,
d'accord ? Et toutes ces offrandes, dans toutes ces offrandes, ils sont mêlés aussi à cela, d'accord ? On voit souvent... on parle de farine, que on doit accompagner ces offrandes, d'accord, de ce qu'on appelle un homer, d'accord, la farine, etc. Et j'en vois que juxtaposé à cela, d'accord, les Chachamim vont nous apporter une nouvelle injonction, d'accord, celle de la challah. Mais en vérité, la challah, qu'est-ce que ça cache ? La Torah nous dit quoi ? La Torah nous dit lorsque vous allez arriver en Eretz Israël, lorsque vous allez pétrir ou faire un pain, tout de suite vous devez penser au Cohen. Tout de suite, vous devez prélever avant de le pouvoir consommer la chose. Vous devez prélever, penser.
Pourquoi une bracha avant ?
Ah, ça c'est aujourd'hui. Ça dépend, c'est sur une certaine... Aujourd'hui, nous, aujourd'hui... Donc, pour
on
revenir
pourrait
juste...
On pourrait prendre un bout de pain et le mettre au congé... Bien sûr. Et puis voilà,
hein, voilà on a fait. Bien sûr. Non, parce que c'est, d'abord, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qui est marquée dans la Torah. La Torah nous dit de prélever. Donc, c'est une mitzvah dont Kakadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir. Et cette mitzvah, elle se faisait à l'époque, mais aujourd'hui, on la continue. D'ailleurs, quand on pétrit du pain et qu'on fait du pain, il y a une mesure minimum pour faire la bénédiction.
Alors, d'accord,
et pour prélever. Et pour prélever, bien sûr.
Monsieur le rabbin.
Oui, oui, tout à fait, pourquoi pas. Alors.
Concrètement.
Effectivement, on a un devoir de la Torah une fois entré en terre d'Israël. Et lorsque, je précise quand même, donc c'est précisé dans les lois du Rambam, lorsque tout Israël ou la majorité d'Israël se trouve en terre d'Israël, c'est une mitzvah de la Torah. Aujourd'hui, c'est une mitzvah donc, qui n'est que d'ordre rabbinique. Mais quoi qu'il en soit, on fait la bénédiction à partir. Pour les séfarades, d'un kilo 560, si je me souviens bien, autour d'un kilo 600, avec la bénédiction. Entre 1 kilo 2 et 1 kilo 600, donc, on prélève sans bénédiction.
Voilà, donc, en dessous de 1 kilo 2, c'est sans, c'est, on ne prélève pas.
Voilà,
du
on ne prélève pas du tout, pas besoin.
Mais entre 1 kilo 2 et 1 kilo 560, comme vous l'avez dit, on prélève, mais cette fois-ci sans bénédiction. Et au-dessus de cela, on prélèvera avec bénédiction.
Voilà, il y a des raisons pour ça, bien entendu, parce que le volume... De la hala doit être de 1/24, donc qui est un volume de 43,2. Bon, tout un calcul. Et donc, ce volume-là, c'est une offrande qu'on a portée au Cohen. Aujourd'hui, on ne peut plus donner au Cohen. Donc,
et il posait la question à Aaron tout à l'heure. C'est l'importance dans la tradition de ça. C'est vraiment important.
Ah, c'est une loi. Alors, les gens prennent ça aujourd'hui comme une ségoula, comme des vertus, n'est-ce pas, miraculeuses. Mais c'est une loi donc ordonnée dans la Torah avant d'être une ségoula, bien qu'effectivement ça rapportait dans beaucoup beaucoup de commentaires, notamment Hagahot Maïmoniot, que ça a des ségoulottes particulières, des vertus particulières, le prélèvement de la challah. Regardez ce que dit le Sforno sur votre question au départ. Vous avez dit quel lien avec les explorateurs. Le Sforno, j'ai lu dans Mikraot Gedolot ce matin, il disait que après la faute des explorateurs, il fallait un moyen d'apporter la bénédiction, les aniyah beracha el vetecha, comme c'est marqué dans le passouk de Yeheskel, d'apporter la bénédiction dans les foyers. Et grâce au prélèvement de la challah, on peut avoir la parnassa et la bracha dans les foyers. Donc,
Aaron, une question sur maintenant.
Monsieur Choukroun El Sharon, j'aimerais juste vous citer ce que dit le Sefer Achinour, d'accord, sur cette mitzvah de la challah de nos jours. C'est que il nous dit qu'à partir du prélèvement de la challah, Dieu dépose sa bénédiction et procure un mérite à notre âme. Donc, c'est-à-dire que la pâte, en quelque sorte, devient ainsi à la fois une nourriture complètement matérielle, puisqu'on va la consommer, et complètement spirituelle. Et ça, je pense, ça donne une nouvelle dimension à la chose, exceptionnelle.
Fantastique.
Alors, oui, alors, allez-y, Aaron, vous voulez rajouter quelque chose ?
Alors, qu'est-ce qu'on en fait du prélèvement pour le Kohen Gadol de nos jours ?
C'était pas pour le Kohen Gadol, hein ?
Non, pour le Kohen Gadol. Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait de nos jours ?
On la brûle.
Voilà. On la brûle. D'après certains, on peut l'entourer deux fois. D'accord ? On l'entoure de deux, ou alors de bouts d'aluminium, de bouts de plastique, on va dire de deux fois au moins deux couches pour pouvoir la jeter. Et la coutume veut qu'on la brûle. D'accord, on la brûle ou dans la gazinière ou bien...
Pour ceux, effectivement, ceux qui ont encore des gazinières à la maison, voilà. Je revois encore les grands-parents, les parents qui collaient ce petit morceau de halas à côté du feu et qui
et prenaient... Et ils attendaient qu'on suivait. On continue, Aaron.
Alors, à la fin de la paracha, on parle des titites. C'est quoi et ça sert à quoi?
Tu peux nous dire,
Allez-y, Aaron.
Alors, les titites.
Ah, ça nous rappelle qu'il faut faire les mitzvot, c'est-à-dire ça nous rappelle qu'il ne faut pas faire de fautes. Parce que quand on voit les tzitzit, on pense directement aux mitzvot, à quelle mitzvot on pourrait faire.
Mais excuse-moi, c'est quoi tzitzit? Est-ce qu'on peut expliquer déjà le principe? Un habit à quatre coins avec des fils. Comment sont faits des fils? Quelle couleur? Je ne suis pas encore rare.
Bien sûr.
Alors dites-nous.
Bravo, Rayon. Alors, non, déjà, moi, j'ai juste une petite explication que j'aime bien, parce que je sais que Jean, quand on arrive à l'émission, adore nous dire, on donne un sens à l'émission.
Mais oui,
d'accord. Donc, un habit à quatre coins, donc n'importe quel habit qui porte quatre coins, d'accord, qui font un angle droit, bien évidemment, pas un angle arrondi, d'accord, sont, à ce moment-là, deviennent Hayavim, en deux mots, on est obligé d'y placer, d'y mettre des tzitziot, ces fils-là, d'accord ? C'est 8 fils, hein ? Enfin, c'est 8 fils qui pendent, mais en vérité, c'est 4 grands fils qui sont pliés en deux par rapport aux façons dont on va les nouer. Donc, on va les nouer au début avec 4 grands nœuds, d'accord ? Sous le qui représente.
Mais c'est des fils de quoi ? Parce qu'on parle souvent de chatnez dans notre religion. C'est des fils de lin, de coton. Comment c'est les fils ?
Alors, d'après la Torah, d'après, on va dire la façon, c'est évidemment mieux d'avoir un talit de laine, d'accord ?
Voilà,
de laine. Mais aujourd'hui, bien évidemment, des fois, il y a des gens qui sont dérangés par la chaleur ou par autre chose. Donc, il y a des talits qui ont été faits en coton, etc. Mais le plus important, c'est d'avoir les nœuds qui soient bien noués, d'accord, au chiffre minimum de 4, parce que par rapport au nom de Dieu, Yud-Ké, Vav-Ké, et ensuite, les 4 fils de chaque côté. D'accord ? Maintenant, ce qui est intéressant, mon cher Aaron, c'est de te poser la question à toi. Combien y a-t-il de fils, en fin de compte, dans un tzitzit ?
Alors, dans un coin, il y en a 8. Et puisqu'il y a 4 coins, donc il y a 32 fils dans un talit.
Très bien. Magnifique. 32 fils. Mais à ton avis, Aaron, qu'est-ce que ça signifie 32 fils ?
32 fils, c'est la même gématria que lève, le cœur.
Lève, bravo, je vois que tu es bien préparé. Bien
étudié, ouais.
Voilà, lève, exactement.
On voit que c'est d'ailleurs, vraiment savoir à choix.
D'ailleurs, c'est pourquoi il y a une habitude, l'usage est aujourd'hui, lorsqu'on arrive le matin avec le talit et qu'on lit dans le schéma la paracha de tzitzit, on place les tzitziot vers notre cœur. Pour se rappeler que ces tzitziot-là, ces tzitzit qui sont là, qui ont la même gématria, la valeur numérique que le mot cœur, viennent aussi nous donner un sens pour éveiller notre cœur au service divin.
Alors, il nous reste 3 minutes.
Mais,
Et je voudrais, alors, c'est peut-être pas prévu, mais je vais quand même demander à Aaron de nous chanter un petit extrait d'un piyout qui veut. Ah. Je te promets que le rabbin Yaakov Barshat, qui est dû aussi. C'est chanté.
Et le rabbin Simon Ayon, qui est aussi un grand chazan.
J'allais arriver. Vont évidemment te suivre. Aaron, une petite chanson pour aller à votre Shabbat avant que nos auditeurs préparent leur Shabbat, s'ils n'ont déjà pas déjà fait.
Mais peut-être juste, mon cher Aaron, avant de te laisser terminer cette émission avec une belle mélodie, je voudrais saluer vraiment la présence du Rav Simon Ayon, qui fait un travail exceptionnel à Villeurbanne.
Alors, vous permettez de le dire, parce que c'est que le rabbin Wayon n'a été prévenu que ce matin qu'il
mais
devait
oui.
venir.
Voilà, il y a quelques
Donc,
minutes.
On lui remercie d'avoir... Bon,
hier quand même. Mais, ouais, mais c'est très gentil. Non, je voulais effectivement, moi, réitérer plutôt en premier, d'abord dire un grand merci à Rabbi Yaakov Barshat, mon ami. On se connaît depuis un moment. À chaque fois qu'il passait à Villeurbanne, j'avais beaucoup de plaisir. Ah oui, bah j'entends bien. Ah. Notre ami, voilà, qui nous régale à chaque fois bien Inara de sa belle voix. Et ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la radio. Merci, M. Choukroun.
Avec
Bravo
plaisir.
Bravo, Aaron, Mazal Tov.
Mazal Tov, Aaron.
Allez, on t'écoute, Aaron.
Ce que tu veux.
La El Baruch Neim Ojitenu La Meler El Chai Vekayam Zemirot Yomeru Vetishbachot Yashmiu Ki U Levado Marom Vekadosh Po El Gevurot Ose Chadashot Bal milchama zorea tzedakot Masmiach yeshuot Bore refuot Nora deilot Adonani flaot
Allez, la tranquilla.
Magnifique.
Ah, magnifique.
Magnifique. Donc, voilà, demain matin, c'est où déjà, Aaron ?
À l'Ort.
Oui, ok. Demain matin, à l'Ort.
Pour la prière.
Pour la prière, ce sera à partir de 9h pour ceux qui veulent nous rejoindre. Merci beaucoup à Thomas pour l'organisation technique. Je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous retrouve très bientôt.
Shabbat Shalom
à vous tous. Shabbat Shalom, merci.
Zak Baruch, Kol HaKavod.
Shabbos.